clin d'œil. Aujourd'hui, Autumn Rhythm, un tableau de Jackson Pollock par Dominique Gauthier, artiste plasticien. Dominique Gauthier, pour cette émission Clin d'œil, vous avez choisi de commenter un tableau de Jackson Pollock que nous pouvions découvrir à l'occasion de la grande rétrospective qui avait été organisée par le Centre Pompidou en 1982. Ça remonte déjà à presque 20 ans. Un tableau qui s'appelle Autumn Rhythm, rythme d'automne, et que Pollock a peint en 1950. Où l'avez-vous découvert vous-même, ce tableau ?
Bon, ce tableau, je l'ai vu avec tous les grands tableaux de Pollock à New York, dans les premiers voyages que j'ai pu faire dans les années 72-73, et puis avant, dans les années 80, enfin, avant vraiment le début de mon activité d'exposition importante. Donc c'est des tableaux qui ont été vus comme des tableaux de formation, des tableaux qui avaient été énormément reproduits et qui paraissaient comme étant des icônes finalement pour la modernité, pour une modernité en tout cas européenne qui subissait de grosses influences de la part de la peinture américaine. Donc la rencontre réelle avec les tableaux a été effectivement éblouissante, était très 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 forte. Les perspectives offertes par la peinture de Pollock étaient des perspectives d'une telle radicalité que c'était très très difficile de négocier finalement un héritage. Mais les tableaux étaient finalement contenu dans des perspectives du travail que j'ai amorcé dans les années 80. Et les tableaux maintenant reviennent régulièrement par rapport à certains dessins, par rapport à certaines perspectives. Et dès maintenant, je peux dire que c'est quelque chose qui fait partie des pièces maîtresses d'une généalogie comme ça qui suit mon travail.
C'est un tableau immense.
Oui, ça fait partie des grands drippings des années 50, qui sont les pièces les plus classiques, on pourrait dire, tout en étant les plus radicales. Ce sont des tableaux qui font à peu près 3 mètres par 5, pour la plupart. Et celui-là, je pense, doit être un des plus grands. Il fait 2 mètres 70 par 5 mètres 30. C'est une pièce assez éblouissante. Et c'est effectivement une pièce majeure, en tout cas, sur laquelle, ou contre laquelle les peintres doivent à un moment se confronter, voire se heurter dans sa radicalité. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, le tableau appartenait à un espace comme ça de son irruption, de son instantanéité de production d'effets, une accentuation comme ça des possibles de la peinture. Et puis maintenant, je pourrais plutôt le réaccorder dans un héritage qui va beaucoup plus au-delà de la modernité, qui s'inscrirait dans une lecture ou une relecture du baroque que je fais depuis longtemps. Donc le tableau peut-être perd de son instantanéité, de cette espèce de modernité agissante, pour rentrer dans un cycle beaucoup plus universel de l'art. Et je l'inscrirai maintenant plutôt par rapport au dessin baroque que à la peinture abstraite des années 50.
Vous parlez de baroque. Vous trouvez que ce Autumn Rhythm, ce rythme d'automne, a des consonances ou des résonances baroques ? Parce que nous sommes quand même dans l'univers de l'abstraction.
Oui, mais c'est absolument, si on doit l'inscrire, si on accepte par exemple les définitions de Géniodor sur le baroque, c'est-à-dire que le baroque n'appartiendrait pas à une époque, mais est un phénomène répétitif, cyclique dans le temps, dans l'esthétique, à ce moment-là, à partir d'une disposition comme celle-là, on peut effectivement et sans problème l'inscrire dans une grande dimension baroque, par rapport au dessin, par rapport à la dynamique, au mouvement. Et puis la peinture abstraite se trouve stylistiquement emportée à ce moment-là dans cette perspective-là. C'est valable pour ce tableau-là, mais c'est bien sûr valable pour un ensemble de tableaux qui concernent le Pollock depuis le début des drippings, c'est-à-dire à peu près 1947. Et on pourrait exagérer ça par rapport à cette espèce de lyrisme qui traverse finalement l'œuvre de Pollock dans son rapport au surréalisme et à l'inconscient, etc.
Vous parlez de dripping, Dominique Gauthier. Pour qui n'est pas initié au langage du commentaire autour de Jackson Pollock, il faut peut-être préciser ce que c'est. Parce qu'on sait que c'est un mouvement plastique qu'il a lui-même inventé et que désormais on lui associe toujours justement... Qui dit Pollock, qui dit dripping,
mais... Oui, il ne l'a pas vraiment inventé, c'est-à-dire que Max Ernst l'avait utilisé. C'est quelque chose certainement qui était lié à des procédures techniques. Elles étaient assez variables, assez expérimentales chez Pollock. Il disait lui-même qu'une grande époque de peinture définissait un rapport nouveau à la technique. Il se trouve que par rapport à son intérêt pour le dessin et à la volonté qu'il avait de travailler finalement avec une très grande liberté, faire en sorte que le geste ne soit pas contraint par le frottement sur une surface ou des choses comme ça. Il est arrivé tout naturellement à déposer finalement la couleur, le dessin, sans qu'un contact préalable s'inscrive sur le tableau, sur la toile. Et dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il s'est affranchi de la touche classique du peintre. Mais le dripping en soi surdétermine un peu le rapport technique que Pollock avait à la peinture. Il a fait des déclarations qui disaient tout simplement que la méthode n'avait aucun sens, le résultat seul l'importait. Bon, en un mot, le dripping est une façon finalement de peindre en disposant la couleur de façon très atmosphérique. Le dessin se dépose sans contact avec la toile. La gestuelle se trouve exagérée, exagérante. Les dispositions, finalement, de mouvement et de dynamisme que je relevais dans peut-être cet héritage du baroque se trouvent effectivement exacerbées. Et la technique produit comme ça une espèce de surmouvement qui dynamise l'image à un point tel que bon, les célèbres photos de Namuth qui montraient Pollock au travail ont influençait bien plus largement les héritiers de Pollock que les tableaux eux-mêmes, finalement. La gestuelle et le spectaculaire de la méthode des drippings a produit des effets bien au-delà des tableaux.
Oui, puisqu'on voit Pollock avec la toile disposée sur le sol de son atelier, et lui-même se promène en quelque sorte au-dessus de la toile en lançant la peinture par grands mouvements. Enfin, c'est comme un ballet presque.
Oui, c'est une danse, tout à fait, c'est une danse. Et on pourrait à ce moment-là, en tout cas moi je me suis toujours amusé à relier les perspectives pollockiennes aux perspectives de Zarathoustra, de Nietzsche. Il y a une espèce d'anticipation de quelque chose qui bien sûr ne se traduirait pas en peinture dans la pensée de Nietzsche, mais qui se vérifie par la peinture dans la pratique de Pollock. Il y a quelque chose qui est assez magnifique dans l'exécution d'un moment pictural et dans cette espèce de rapport très 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 intense finalement à la dynamique du mouvement et à sa trace.
Et cet Autumn Rhythm, ce tableau que vous avez choisi, Dominique Gauthier, comment apparaît-il exactement? Que voit-on sur ce tableau? Il y a apparemment un référent concret, puisque un rythme d'automne. Alors que bien des tableaux de Pollock portent simplement des numéros. Bon, celui-ci porte aussi le numéro 30. Mais en fait, il semble qu'il y ait une volonté donc de s'enraciner dans quelque chose de matériel.
Oui, je pense que le tableau est inscrit dans une chronologie, dans la suite des grands tableaux des années 50. Pollock, finalement, avait beaucoup, était toujours dans un état de concentration intense. Les tableaux qui donnent l'impression d'être des irruptions d'une très grande spontanéité n'en sont pas du tout. Les tableaux étaient préparés, étaient observés entre différentes interventions, plusieurs jours, voire plusieurs semaines s'écoulaient. Donc, le titre, je pense, appartiendrait à une espèce de grande scène, une scène qu'il est en train de voir défiler avec tous les doutes et les angoisses qu'il animait à cette époque. Et là, par contre, on est dans une dimension où les drippings vérifient de façon absolument parfaite le principe, le projet et l'exigence radicale avec laquelle, par exemple, Pollock affrontait Picasso. Et le tableau pourrait appartenir à quelque chose qui serait le grandiose, le sublime, à un moment où certainement une nouvelle vague d'incertitude va assaillir Pollock, son rapport effectivement à l'histoire, à la figure, à des choses comme ça. Donc le rythme d'automne pourrait être un des derniers grands gestes de certitude et de sérénité avant d'autres questions qui sont pour l'essentiel des questions appartenant à tout l'espace de la modernité.
Les couleurs marient le noir, le blanc, le brun.
Et l'aluminium.
Sur un fond beige, gris.
C'est le fond même de la toile. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les tableaux de Pollock étaient à peine encollés, étaient agrafés, comme on sait, au sol. Et ils se servaient finalement d'un coton très grossier qui avait une pigmentation et une robustesse qui était à même de porter finalement cette espèce d'éclat de couleur. Et effectivement, les brillances, les différentes brillances, la façon dont la toile réagit finalement à l'inscription de la couleur, manifeste une très grande complexité. C'est des tableaux très très complexes qui relèvent d'une très grande technique de peinture. Maintenant, je peux dire que, enfin, depuis quelques années, j'ai réfléchi beaucoup à Pollock en inversant totalement, si j'ose dire, un principe. C'est-à-dire, je fais des dessins qui sont à l'inverse de ce que pourrait être la vision première d'un Pollock, complètement construit. C'est des ensembles qui s'appellent des ostinatos, qui sont faits à partir d'une décision qui serait d'amputer totalement la liberté ou la soi-disant liberté du peintre au XXe siècle. C'est-à-dire que je me trouve lié au dessin par une cordelette, par des clous, par des choses comme ça. Donc c'est un procédé technique qu'il faudrait expliquer plus largement. Mais là, je pense que je m'approche au plus près d'un espace qui serait une interrogation exigeante, en tout cas, de l'héritage de Pollock. Les ostinatos, là, ces œuvres que j'appelle les ostinatos, partiraient d'une réflexion sur un principe d'infini, un tableau qui n'aurait pas de centre et qui serait proliférant, une construction linéaire, tourbillonnaire, très dynamique, mais qui n'a pas d'identité visuelle avec un tableau de Pollock. Mais je pense que c'est une interrogation assez forte.
Vous disiez, Dominique Gauthier, que Pollock était classique.
Oui, il faudrait préciser dans ce rapport. C'est-à-dire que par rapport à une généralité de peintres et d'attitudes, Pollock quitte l'actualité du XXe siècle pour s'inscrire dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des chefs-d'œuvre et dans l'histoire des grands peintres. C'est-à-dire, à partir de là, c'est un classique. Par rapport à une définition esthétique, celle que j'essayais de pointer en disant qu'il appartient à un espace baroque, on n'opposera pas le classique au baroque. Et dans ce sens-là, c'est un peintre de tradition baroque, qui serait à écouter à côté de l'œuvre de Rubens. Et on peut signaler que la peinture n'enregistre très peu d'effets objectifs de chronologie et l'histoire de l'art n'est effectivement pas quelque chose qui permet une lecture intéressante des œuvres. La peinture s'inscrirait plus dans une verticalité. Les grands moments de peinture peuvent s'échanger bien plus que la chronologie des œuvres et l'espace de lecture qui découperait des séquences et des mouvements à l'intérieur d'un grand plan historique. Les peintres ont pour faculté de s'intéresser à différents moments et à différentes chronologies, à des pluralités finalement.
Donc de nier la chronologie.
Oui. Dans ce sens-là, Pollock appartient à un espace qui est beaucoup plus intense et complexe que l'espace de la peinture du XXe siècle, de la peinture abstraite.
Dominique Gauthier, artiste plasticien, commentait Out on Rhythm, un tableau de Jackson Pollock. Groupe de réalisation, Olivier Bétard, Sandrine Chaperon, Antoine Anglade. C'était Clin d'œil de Pascal Lismonde.